Peu de sens à la présentation.
Bonsoir. Une centaine de titres forestiers ont été jugés non conformes par le groupe technique de travail institué par le ministère de l'Environnement et Conservation de la Nature. Seulement 29 sur plus de 100 titres forestiers ont réussi cet examen de passage. Par ailleurs, dans son rapport du 30 juillet dernier, l'ONG Greenpeace avait dénoncé les malversations financières dans ce secteur, consistant, selon cette ONG, un manque à gagner pour la RDC. Que reproche-t-on aux détenteurs de ces titres et que peut gagner le trésor public congolais en attribuant de nouveaux contrats de concession forestière? Nous avons invité ce soir pour en parler le ministre de l'Environnement et Conservation de la Nature, M. José Ndundo, mais aussi Mme Judith Verbeijen, représentant de Greenpeace en RDC. Certaines réactions de nos auditeurs nous sont déjà parvenues. Dena Joni de Bounia dans la province orientale veut savoir ce que dit le ministre de l'Environnement à propos des bois exploités illégalement et amenés en Ouganda. François Makiambi depuis Bukavu au sud Kivu se demande pourquoi nos ministres attribuent-ils des titres qui vont juger plus tard non conformes. N'est-ce pas là une incohérence de l'action gouvernementale? Pourquoi nos dirigeants ont-ils attendu qu'une ONG internationale puisse publier son rapport sur l'exploitation forestière en RDC pour se réveiller? S'interroge Joseph Mumbi de Lubumbashi au Katanga.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
De sources proches du ministère de l'Environnement, nous apprenons que la conversion des titres fonciers forestiers en contrat de concession forestière s'inspire du code forestier promulgué en 2002 avec comme objectif principal assainir l'exploitation forestière en RDC. Détail avec notre confrère Guy Roger Niampala.
La nouvelle réglementation exige que tout contrat de concession forestière avant d'être signé contienne un cahier de charges dûment négocié entre les populations des zones où l'exploitation s'est faite et la société d'exploitation des bois. Ce cahier de charges contiendra les projets que l'entreprise devra réaliser en faveur des populations des zones d'exploitation. Il s'agit des projets tels que des routes de desserte agricoles, écoles et autres centres hospitaliers. Autre innovation, des enquêtes seront menées sur terrain avant toute signature des contrats. Enfin, plusieurs commissions devront apprécier le contrat avant sa signature. Le groupe technique de travail qui examine la conformité des titres forestiers dispose aujourd'hui d'une trentaine de jours pour rendre son rapport à la commission interministérielle. Celle-ci siégera à son tour pour examiner, approuver ou rejeter le dit rapport. Notez que 22 millions d'hectares de titres forestiers ont été attribués aux entreprises forestières jusqu'à ce jour. Ces 22 millions d'hectares représente cette fois la superficie d'un pays comme la Belgique.
Monsieur José Ndundu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le ministre de l'Environnement et Conservation de la Nature au gouvernement central. Est-ce qu'on peut savoir sur quels critères s'est basé le groupe technique de travail pour donner des avis favorables à certains exploitants qui peuvent voir leur titre d'exploitation forestière converti en contrat de concession forestière et d'autres requêtes ont été rejetées?
Oui, d'abord, si aujourd'hui on arrive au stade actuel, c'est qu'il y a eu des problèmes. Et donc l'État a dû s'adapter à ces problèmes pour trouver une solution. Il y a des problèmes qui sont d'origine interne. Il y a par exemple les plaintes des populations autochtones riveraines sur l'exploitation forestière. Ils ne voient pas de route, ils ne voient pas d'école, ils ne voient pas d'hôpitaux. Il y a l'État central qui ne perçoit pas exactement quelle est la contribution du secteur forestier dans son budget, et il faut dire que cette contribution est très faible. Quand on regarde, par exemple, les résultats de l'année dernière, c'est la première observation que j'ai faite en arrivant à la tête du ministère, c'est qu'il y avait à peu près 1 800 000 euros qui tombaient dans les caisses de l'État.
Chaque année ou chaque mois?
L'année dernière, toute l'année, pour toute l'année dernière. En termes de retombées en devises, c'était à peu près 60 millions d'euros. Alors, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions par rapport à cela. On peut aussi se poser des questions sur aujourd'hui la compréhension de la question forestière dans le monde.
Et à combien évaluez-vous peut-être les recettes que peuvent disons apporter les
exploitations forestières? Il est prématuré pour moi de répondre. Et puis, il faut que j'ajoute un élément important, c'est que la gestion forestière aujourd'hui, même si la forêt est congolaise, doit répondre à certains critères internationaux. Notre pays a souscrit à de nombreux engagements internationaux dans le domaine de l'environnement, de la conservation de la nature, de la biodiversité. Il faut que nous nous mettions à niveau par rapport à toutes ces exigences internes et externes. Donc, en 2002, une loi portant code forestier a été prise. Cette loi permet d'arriver au processus actuel. Mais pour mettre en application cette loi, il a fallu prendre des décrets, parce qu'une loi se met en musique, se met en exécution après des mesures d'exécution, des décrets. J'en ai fait prendre 4 par le Premier ministre en Conseil des ministres, et on a pris une quinzaine d'arrêtés qui font qu'aujourd'hui, on peut, sur base du décret du chef de l'État de 2005, commencer le processus de conversion des titres forestiers.
Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous dites à Monsieur Joseph Mwimbi de Lubumbashi au Katanga qui se pose la question suivante, pourquoi nos dirigeants ont-ils attendu qu'une ONG internationale puisse publier son rapport sur l'exploitation forestière en RDC pour se réveiller?
Se réveiller sur quoi? Sur quoi? J'étais celui qui, dès le début de cette année, a dit qu'il fallait qu'on reprenne en compte la gestion forestière, par exemple en termes de retombées des produits exportés. C'est clair que on n'a pas besoin de faire tout le travail que l'on fait si seulement on reçoit, l'État congolais ne reçoit que 1 800 000 euros. Il n'est pas possible de considérer seulement cet aspect. Bien entendu aussi, il y a les emplois créés, il y a toute une série de choses qu'il faut prendre en compte par rapport à l'aspect forestier dans la gestion de ce pays.
Merci, monsieur le ministre. Nous avons également dans ce studio madame Judith Verwegen. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Vous êtes représentante de Greenpeace en République démocratique du Congo. Comment vous réagissez ou comment vous recevez les recommandations faites par le groupe technique de travail institué par le ministère de l'Environnement et Conservation de la Nature et qui a donné son aval, disons, un avis favorable à une vingtaine de titres forestiers d'exploitation forestière, restant ainsi les autres titres.
Donc, bonsoir. Greenpeace estime que la conclusion prochaine du processus de conversion des titres forestiers présente une opportunité tout à fait unique de développer des réformes de politique forestière basées sur la transparence, la responsabilité et le bien-être de la population congolaise. Néanmoins, Greenpeace craint que le processus de conversion tel comme il s'est déroulé jusqu'au moment ne puisse pas vraiment réaliser son potentiel d'effectuer un vrai assainissement du secteur forestier, donc du fait de son champ restreint.
C'est-à-dire
que les critères que le groupe technique de travail a utilisés pour juger de la convertibilité d'un titre sont extrêmement limités car ils ignorent les aspects sociaux et environnementaux de l'exploitation forestière. Donc, ce groupe technique de travail n'a pas été doté de temps et des moyens pour vraiment faire un examen exhaustif sur le terrain du respect de la loi et des problèmes sociaux et environnementaux. Par rapport à la publication des recommandations du GTT, d'abord, nous avons signalé que sa publication vient un peu tard. Nous avons déjà demandé la publication du rapport de GTT dès la conclusion de ses travaux en automne 2006.
Oui. Le groupe technique de travail. Hein.
Pour renforcer la transparence du processus. Donc maintenant, on n'a publié que les recommandations et ça veut dire que nous ne savons pas vraiment comment ils sont arrivés à ces recommandations. Par exemple, 9 de 29 titres qui ont reçu un avis favorable ont reçu cet avis sous condition. Mais nous ne savons pas de quelles conditions il s'agit Et une autre chose que nous avons estimée remarquable, c'est parmi ces 29 titres, il y a 16 qui ont été attribués après le moratoire de 2002.
Combien vous dites?
16 de 29 titres qui ont reçu un avis favorable ont été octroyés après le moratoire de 2002 que le groupe technique de travail a utilisé comme critère ou aurait dû utiliser comme critère selon la guide pratique qui décrit tous les critères et la méthodologie de vérification.
Merci beaucoup, Madame Judith. Monsieur le ministre, avant de réagir par rapport aux réponses de Judith, je voudrais d'abord que vous puissiez, puisque c'est des termes quand même assez techniques, expliquer un peu à nos auditeurs qu'est-ce que cela signifie, la convertir les anciens titres forestiers en contrats de concession forestière. Ça signifie quoi, de façon simple?
D'abord, il y a des précisions à donner ici. Il ne faut pas non plus... Je suis le ministre, donc je représente le gouvernement. L'État, c'est moi qui le représente ici. Les ONG ont la liberté de s'exprimer, et c'est déjà très bien qu'il y ait un débat de cette nature. Donc, c'est la démocratie, c'est l'ouverture, c'est la liberté d'expression. Et il faut bien restituer les choses dans leur contexte. La République démocratique du Congo a 145 millions d'hectares de forêt. Il y a 60 millions d'hectares qui sont exploitables. Sur les 60 millions exploitables, aujourd'hui, il y a 22 millions qui le sont. Nous avons fait un effort considérable en adoptant la loi en 2002. Un effort encore plus considérable a été fait dans les 6-7 derniers mois pour prendre toutes les mesures qui pour aujourd'hui conduisent à cette réunion de la commission interministérielle qui va permettre définitivement de faire passer, vous avez dit tout à l'heure, de 156 titres et peut-être à 29 et peut-être un peu plus. C'est un effort considérable, il faut le prendre en compte.
Mais ça signifie quoi,
je vais vous l'expliquer, oui. il faut que les auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit. Jusqu'aujourd'hui, on travaille sous deux méthodes. On écrit des lettres d'intention ou des lettres de garantie. Aujourd'hui, on veut que celui qui exploite la forêt se sente sécurisé à condition qu'il remplisse toutes les conditions qui sont prévues, les cahiers de charges, le respect des questions financières, les questions de zonage, de il y a toute une série.
Ce qui n'était pas le cas auparavant.
Depuis des années, on attribuait, le ministre pouvait se lever et puis décider d'attribuer une forêt. Aujourd'hui, il y a une commission interministérielle dans laquelle, je dis interministérielle, mais elle n'est pas seulement interministérielle, puisque vous avez à l'intérieur de cette commission les populations autochtones, les populations riveraines, les représentants des provinces, l'administration. Vous avez même un observateur international qui, dans le cas d'espèce, est pratiquement toujours un étranger. Donc, ça se fait dans la plus grande transparence. Alors, j'ajoute, bien entendu que ce processus n'est pas parfait, il ne peut pas être parfait. Qu'est-ce qui est humain et qui soit parfait? Ça n'existe pas. Donc, un effort considérable a été fait. Je voudrais dire aussi, je ne suis pas ici le représentant des entreprises qui exploitent les forêts. Je veux que, me basant sur une loi que j'ai trouvée et que je mets en œuvre, je veux que les conditions les meilleures, les conditions optimales soient remplies dans l'exploitation forestière.
Mais qu'est-ce que vous dites, vous répondez aux reproches de Judith qui dit que certains environnementaux ne soient pas respectés.
Greenpeace a son rôle, moi j'ai un rôle. Aujourd'hui je ne peux pas me prononcer sur une démarche qui est conduite par une commission interministérielle que j'ai installé. Me prononcer par rapport à cela, cela voudrait dire que je donne des lignes indicatrices. Ce qu'on a reproché toujours à cet État, c'est qu'il se mêlait de tout, de A à Z. Aujourd'hui qu'on délègue ce pouvoir à des représentants des populations autochtones, riveraines, à des provinces, il ne faut pas qu'aujourd'hui le ministre empiète sur le domaine d'action de cette commission. Par exemple, la vérité est toujours au milieu. La vérité n'est ni chez Greenpeace, ni chez les transformateurs, les industriels.
Elle est où, cette vérité?
La vérité se trouve, par exemple, et je ne suis pas l'avocat en aucun cas des exploitants forestiers.
Nous avons tenté d'éviter Tiborcone.
Le dossier
n'a pas voulu participer à cette émission.
Ben, je peux vous répondre par rapport à Tiborcone.
Oui, allez-y, je crois, dans un rapport, vous avez aussi parlé d'évasion fiscale, de manque à gagner du gouvernement congolais.
Je vais
là, notamment, citer Sikoko.
Ben oui, je vais vous répondre.
Allez-y, M.
Vous pensez bien, d'ailleurs, je remercie Greenpeace parce que j'ai été prévenu avant. Les méthodes ont changé avant. Greenpeace publiait des rapports. J'ai été prévenu, j'ai été appelé par Greenpeace Paris pour me dire sur un rapport.
Donc vous confirmez qu'il y a eu des évasions fiscales
dans le domaine de l'exploitation financière. Voilà ce que je vais vous dire. Siporco, lorsque vous analysez le dossier, Siporco a exporté le bois à un prix qui est toujours au moins celui de la mercuriale. Le problème se situe où ? Le problème se situe parce que l'administration, et je suis aujourd'hui le représentant de l'administration, du gouvernement, de l'État, l'administration n'a pas fait correctement son travail.
Mercurial, ça signifie quoi par rapport aux auditeurs,
Laissez-moi vous dire.
C'est le prix pratiqué sur le marché, la mercurial.
Non. Lorsque vous exportez un bois, lorsque vous exportez du café, du cacao, étant donné les questions de variation des prix, étant donné que les gens sont enclins à vouloir tricher sur les valeurs exportées, l'État fixe un prix de référence. On ne peut pas exporter en dessous de ce prix. Qu'est-ce qu'il apparaît par rapport à cette question de Siforto? Il apparaît que la commission des mercuriales, la dernière fois, elle s'est réunie en juin 2000, le 21 juin 2000. Or, vous le savez, sur le marché international, les prix ont explosé. Donc, la faute, Siforto dira, j'ai exporté au-dessus de la mercuriale.
C'était le gouvernement qui était distrait ou quoi?
Et je dis que là, il y a un problème. On ne peut pas reprocher totalement à une entreprise lorsque la commission mercuriale n'a pas fait son travail. La commission mercuriale, c'est du ressort de l'État. Donc, nous devons être plus attentifs.
Vous voulez dire que Vinci avait raison de dire qu'il y avait évasion fiscale, il y avait de la fraude, le gouvernement congolais enregistrait un certain manque à gagner?
C'est clair qu'il y a eu un manque à gagner. C'est clair, on ne peut pas nier l'évidence. Mais je ne peux pas vous dire ici que c'est la faute de l'entreprise. Je pourrais même dire que nous aurions dû être plus attentifs pour que la commission des mercuriales, c'est-à-dire la commission qui fixe les prix planchers à l'exportation, fonctionne plus régulièrement.
Et Judith, est-ce que vous pouvez réagir aux propos du ministre?
Oui, donc nous estimons qu'il y a également une responsabilité chez les entreprises, parce que donc d'abord le prix mercurial c'est vraiment un prix minimum que le gouvernement utilise pour calculer ses recettes pour une année fiscale. Ça veut dire que c'est pas une prescription obligatoire pour les entreprises, et que parce que un gouvernement est toujours prudent dans la calculation de ses recettes, c'est normal qu'il prend donc une estimation plutôt bas. Mais c'est clair que depuis 2000, les prix sur le marché international du bois tropical sont augmentés énormément.
Et qu'est-ce qui a fait que le Congo ne puisse pas augmenter également ses prix et partant aussi ses recettes?
Voilà, ça c'est un manque énorme pour l'État congolais.
De combien par exemple, qu'est-ce que l'État congolais a perdu pendant tout ce temps où les prix du bois congolais n'étaient pas adaptés par rapport à ce pratiqué sur le marché international?
Ça c'est en ce moment difficile à estimer parce qu'il faut prendre les prix de marché de chaque année dès 2000 pour y arriver. Donc, je ne peux pas faire le calcul maintenant, mais ça sera une question intéressante pour voir. Mais, deuxièmement, je voudrais ajouter que c'est pas clair pourquoi l'entreprise qui a vendu le bois sur le prix international du marché a gervé l'écart sur des comptes offshore. Donc ça veut dire que ça c'est une pratique qui n'est pas nécessairement liée au prix mercurial, mais plutôt aux administrations financières de l'administration de l'entreprise même.
Merci beaucoup. Monsieur le ministre, nous avons certaines questions ici. Il y a des auditeurs qui réagissent. Il y a Kassamba Wanango de Bouni en province orientale qui dit ceci, c'est bon d'annuler certains titres forestiers. Le peuple congolais est habitué à cette distraction où il ne trouve pas son compte. On en a vu avec les contrats miniers et le rapport Lutundula versé dans les oubliettes. Il y a aussi Kambale Emmanuel de Butembo au Nord Kivu qui dit ceci. Nous félicitons le ministre Ndundo d'avoir dépêché un inspecteur forestier provincial car les arbres du Nord Kivu sont coupés en désordre, voire les arbres plantés, ce sont les arbres plantés par les colons. D'abord, certains auditeurs ne croient pas à la réussite de l'action gouvernementale pour essayer de mettre de l'ordre. Ils disent qu'on en a vu de semblables, de pareils avec les contrats, le réexamen des contrats miniers, le rapport Lutundula versé dans les oubliettes.
Je pense qu'ici, on doit quand même observer qu'il y a un effort qui est fait dans la plus grande transparence.
C'est moi le ministre qui me dit. Beaucoup de Congolais n'en sont pas convaincus.
Laissez-moi parler. Laissez-moi
je vous en prie.
Quand vous parlez, je vous laisse parler, laissez-moi parler.
Je vous en prie.
Quand je vous dis qu'il y a eu faute de la part de l'administration, que la commission matérielle ne se soit pas réunie depuis 2000, je suis le premier à reconnaître qu'il y a une lacune. Vous ne pouvez pas en douter. De deux, il y a un effort considérable. Et il y a des pays qui considèrent que nous faisons aujourd'hui un effort considérable. Et le fait aujourd'hui que je me retrouve ici avec Greenpeace est déjà une marche en avant, c'est de dire il faut qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait une transparence. Bien entendu, s'il y a eu des expériences malheureuses, nous devons assumer, le gouvernement doit assumer et il doit s'améliorer. Par exemple, le ministre de l'économie, le gouverneur de la Banque centrale et moi-même, nous sommes parfaitement en harmonie. Les experts travaillent déjà pour la correction de la mercuriale. Et désormais, il faudra que très régulièrement, toutes les semaines, toutes les deux semaines, la commission mercuriale se mette en place et revoie les prix selon la progression des prix, tendance haussière ou baissière, des prix à l'exportation.
Parce que le gouvernement ne peut pas récupérer ce qu'il a perdu du fait que ses prix étaient trop bas par rapport à ce pratiqué par les sociétés.
Mon job n'est pas celui-là. Si le gouvernement n'a pas fait correctement une certaine époque, pour différentes raisons que je ne vais pas évoquer ici, quelque chose qui n'est pas bien, aujourd'hui, moi, je regarde l'avenir. Quand j'entends les Congolais dire qu'ils n'y croient plus au processus que nous entreprenons, mon boulot, c'est de faire en sorte que demain, on puisse dire qu'il y a eu un assainissement dans le secteur forestier. Et j'attends qu'on me juge sur les résultats et pas sur des idées reçues, des idées entendues. Je crois qu'il y a aujourd'hui un effort de redressement du secteur forestier, une prise en main de ce secteur, et où on implique tout le monde, il faut voir le mécanisme se poursuivre, et il ne faut pas vouloir. C'est sûr que ce processus n'est pas parfait. C'est sûr que d'ici 2-3 ans, il faut revoir ce processus. Et encore aujourd'hui, je discutais avec mes collaborateurs de la loi sur l'environnement, il y aura des améliorations qui sont faites même à ce code forestier. Ce n'est pas une bible. C'est un instrument de travail pour améliorer la situation et qu'on attende de voir les résultats et qu'on ne préjuge pas déjà des résultats qui vont venir.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Une centaine de titres forestiers jugés non conformes par le groupe technique de travail institué par le ministère de l'Environnement et Conservation de la Nature. Que peut gagner le trésor public congolais en attribuant de nouveaux contrats de concession forestière? C'est la seconde partie de cette émission, mais nous revenons à vous tout juste après le rappel de notre contact.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 89 066 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
L'exploitation forestière se fait au détriment des populations congolaises. Ces propos sont ceux du coordonnateur de l'ONG Solidarité Paysanne à l'Arche Initiative Sopali, basée à Bumba en Équateur. Michel Gala pense que les nouveaux contrats de concession forestière ne pourront rien changer si l'État congolais ne met pas en place un mécanisme efficace de contrôle de l'exploitation forestière. On écoute Michel Gala qui a été joint au téléphone par notre confrère Guy Madé.
Les exploitants forestiers ne respectent pas les règlements en matière. Par exemple, le code forestier n'est pas respecté parce qu'il est dit quelque part dans l'article 329 du code forestier que les exploitants sont chargés des constructions, d'aménagement de routes, la réfection, l'équipement des installations hospitalières et scolaires, les facilités en matière de transport de personnes et des biens. Alors, tout cela ne se fait pas à contrepartie, les exploitants ici construisent des écoles ou des centres de santé en bois, donc en chalet de fortune, sans pavement, à ciment, et ces infrastructures ne résistent pas à l'usure des temps et aux attaques de mythes ici. Nous avons beaucoup d'inquiétudes parce que le beau texte, comme on l'a toujours répété, la République démocratique du Congo, il en existe. Mais si on ne va pas mettre un mécanisme efficace, effectif, pour que l'État rentre dans ses droits et ainsi que les populations locales, ce texte pourra peut-être exister, mais rien ne va se faire et l'exploitation va continuer, comme par le passé, d'une façon abusive.
Madame Judith Berbejan, vous êtes représentante en RDC de l'ONG Greenpeace. Comment réagissez-vous par rapport aux propos de Monsieur Michel Gala qui pense que les populations ne profitent pas de l'exploitation forestière et que accorder de nouveaux contrats de concession forestière ne pourra rien changer si l'État congolais ne met pas en place un mécanisme efficace de contrôle de cette exploitation forestière justement?
Nous sommes tout à fait d'accord avec cette opinion, nous le partageons. Nous pensons que donc les pratiques les années dernières ont montré l'échec d'un modèle de développement reposant sur l'exploitation industrielle du bois par largement aux mains des entreprises occidentales. Nous estimons que ce modèle de développement ne marche pas pour les populations qui ne tirent pas des profits.
Et qu'est-ce que vous proposez pour que ça marche? Parce que pour vous, est-ce que les forêts, puisque vous êtes une ONG de défense de l'environnement, on connaît vos actions à travers le monde, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut laisser les forêts congolaises vierges sans être exploitées? Parce que quand même, il faut dire que les forêts congolaises constituent le deuxième poumon du monde, c'est-à-dire que les forêts congolaises permettent aussi de participer à la préservation de l'humanité, de lutter contre les changements climatiques. Est-ce qu'il faut exploiter ces forêts ou bien il faut les laisser comme ça?
Voilà. Nous voulons, au lieu d'un système d'exploitation industrielle de bois qui ne donne pas de bénéfices ni aux populations ni à l'État, nous voulons remplacer ce système par un système international de protection des forêts en tant que stock du carbone.
Mais comment le Congo va-t-il tirer des revenus financiers puisqu'il en a besoin pour son développement?
Au moment, il y a des négociations sur le plan international pour le régime international du climat après 2012, sous le protocole de Kyoto. Et nous voulons intégrer un système de récompensation pour la réduction des émissions de carbone liées à la déforestation et la dégradation des forêts. Ça va permettre au Congo de tirer assez de bénéfices d'un tel mécanisme.
Merci beaucoup, Madame Judith. Monsieur le ministre, vous avez suivi Michel Gala, qui est coordonnateur de l'ONG Solidarité Paysanne à large initiative, Sopali, basé à Bouma en Équateur. Nous savons que la province de l'Équateur constitue quand même un stock assez important en matière
province,
d'exploitation forestière.
C'est la première province en termes de forêt au Congo.
Parlez devant le micro, s'il vous plaît.
C'est la première province en termes de forêt congolaise, c'est l'Équateur. Ce monsieur a raison. Et si on arrive aujourd'hui aux mesures qui sont prises, c'est que l'État s'est rendu compte qu'il y a un problème. Et on veut améliorer. Donc, il y a un processus participatif. Les populations locales verront le cahier de charge, négocieront le cahier de charge, et il y aura donc une amélioration par rapport à la situation actuelle. C'est évident. De deux, quand j'entends Madame Judith de Greenpeace parler du mécanisme, il n'y a personne qui se bat autant que moi ici dans ce pays pour qu'on prenne en compte les puits de carbone. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas le fait.
Ça signifie quoi,
aujourd'hui, le carbone participe au mécanisme de régulation climatique. C'est un problème fondamental. Et ce que je dis aux Occidentaux, vous mettez 1000 milliards dans les tourismes, dans le loisir, mettez quelque chose pour que nous puissions entretenir la forêt. On veut dire entretenir la forêt, mais qu'est-ce que nous recevons de vous par rapport à la préservation de la forêt?
Vous avez justement été invité dernièrement dans une réunion des ministres de l'Union européenne.
C'est ça, justement. Qu'est-ce que j'ai dit aux 27 ministres de l'Union européenne? La première chose, la première observation, j'apprécie le concours de l'Union européenne parce que le premier financement qui va être mis en œuvre au ministère de l'Environnement, c'est 45 millions de dollars qui viennent de l'Union européenne. Et 45 millions de dollars ne résoudront pas les problèmes du Congo. C'est clair. Donc, les mécanismes en termes de rétribution des services environnementaux, c'est le combat aujourd'hui, c'est tout faire pour que la communauté internationale prenne en charge et qu'on détruise le moins la forêt.
Mais de toutes les façons...
Il faut que j'aille au bout de ma pensée, parce que sinon... Alors, j'ai répondu à cette préoccupation, oui, mais on n'en est pas encore à ça. On en est encore à un combat quotidien de dire d'abord, il faut restituer à l'État les fonctions régaliennes. Ce pays est quasiment, dans certains domaines, géré par des ONG. Je suis désolé, vous ne voyez pas l'administration, les chiffres, les ONG.
Mais ce n'est pas aussi à cause d'une certaine absence de l'État.
Donc l'État doit reprendre ses fonctions régaliennes, doit diriger en tenant compte... Je donne un autre exemple. Le secteur forestier, lorsque j'ai dit, parce que j'agis de façon transparente, j'ai dit qu'il y a 1 800 000 euros qui sont payés en termes de contribution à l'exportation du bois. Les sociétés ont répondu, oui, très bien, mais vous n'avez pas compté ce que nous payons à l'OCC, vous n'avez pas compté ce que nous payons aux administrations
provinciales. Ça représente combien c'est que ces sociétés paient?
Justement, c'est le travail qui est fait maintenant, c'est de consolider tout cela et de savoir exactement l'apport. Il y a un autre aspect. Si on suit Greenpeace, on doit fermer toutes les sociétés d'exploitation forestière. Les 50 000 emplois directs créés, qui va donner de l'emploi à ces 50 000 Congolais qui travaillent grâce au bois, qui va s'occuper de leur famille? La gestion de l'État ne se fait pas sur des pressions de quelque nature. Il y a plusieurs volets qu'il faut prendre en compte. Donc, progressivement, résoudre les erreurs que l'on constate, c'est ce que nous faisons, faire en sorte que les populations soient partie prenante à tout ce qui va se faire dans la plus grande transparence, et je dis aux sociétés d'exploitation forestière, elles ont intérêt à être le plus transparentes possible. Aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner en ayant des comptabilités cachées, il faut que tout soit mis sur la table et qu'on puisse dire, mais effectivement, on dit que l'État ne reçoit pas. Qu'est-ce que les provinces ont reçu? Qu'est-ce que les territoires ont reçu? Qu'est-ce que les secteurs ont reçu? Et qu'est-ce que finalement les populations reçoivent en termes d'écoles, de routes, etc. C'est ce bilan consolidé qui doit être fait. Tout le reste est discours, parce que ce n'est pas les discours qui font vivre, c'est l'action concrète qui fait vivre la population, qui fait vivre l'État congolais.
Monsieur le ministre, on a entendu dire qu'il y a quand même des innovations dans le travail qui a été fait, qui est en train de faire par votre ministère. Il y a notamment le cahier de charges qui sera signé entre les populations, les communautés locales et les sociétés d'exploitation forestière. Mais est-ce qu'il y aura un contrôle?
Par exemple,
si après une année ou deux années, les sociétés ne construisent pas des écoles, des routes, qu'est-ce que l'État va faire?
C'est clair que ce processus ne peut marcher que s'il y a renforcement du contrôle. Et renforcement du contrôle veut dire quoi? Veut dire moyen, veut dire homme, veut dire formation suffisante. Sur le financement de l'Union européenne, 45 millions de dollars, près de 15 millions sont réservés à la formation. Nous n'avons pas suffisamment d'ingénieurs forestiers. Le ministère de l'Environnement aujourd'hui fonctionne dans des conditions extrêmement difficiles. Vous ne pouvez pas faire le contrôle, et c'est ce que je dis à mes partenaires occidentaux. Je dis, vous voulez une meilleure gestion forestière, il faut mettre les moyens. Vous voulez préserver la forêt pour l'intérêt de la communauté internationale. Vous devez y aller de votre poche.
Merci Judith, vous êtes représentante de Greenpeace en République démocratique du Congo. Votre réaction? Il faut le ministre dit que s'il faut se fier aux propositions de Greenpeace, c'est-à-dire qu'il faut cesser pratiquement d'exploiter les forêts congolaises avec l'impact négatif que cela pourrait avoir en termes de, il y a à peu près 50 000 personnes qui vivent de cette exploitation forestière d'après le ministre.
Oui, donc nous disons qu'il y a une nécessité urgente de développer des alternatives à l'exploitation industrielle de bois, notamment la foresterie communautaire ou l'exploitation des produits non ligneuses.
C'est-à-dire quoi?
Donc les produits qui viennent des forêts, mais qui ne sont pas le bois.
Bon, est-ce que vous pouvez vous expliquer un peu, parce que c'est trop technique? Oui, mais
je vais intervenir là. Par exemple, ça. Aujourd'hui.
Mais il faut qu'elle nous explique d'abord, parce que c'est.
Non, c'est technique. Il faut. Aujourd'hui, il est démontré, il est prouvé. Je ne crois pas que Greenpeace puisse, à ce sujet-là, me confesser ce que je vais dire. Il est prouvé que la forêt est plus détruite par la population que par les entreprises qui exploitent la forêt. Et donc, il y a des mécanismes. Et c'est ce que je dis à tout. Lorsque j'ai été à cette réunion, le seul ministre africain, avec les 27, j'ai dit, le pire ennemi de la forêt, c'est la pauvreté, c'est la misère de la population qui vit dans les forêts. 40 millions de Congolais vivent de la forêt, dans la forêt. Et donc,
c'est pourquoi on le dit hein, que le plus grand destructeur des forêts, ce sont les populations.
Mais c'est prouvé, c'est démontré. Et donc, ce qu'il faut faire, ce n'est pas accabler les entreprises, ce n'est pas accabler la population, c'est de dire à la communauté internationale, et c'est ce que je dis tous les jours, vous avez besoin de la forêt, vous devez mettre les moyens. Et c'est pour ça que je peux vous dire aujourd'hui que, alors que le ministère de l'Environnement fonctionnait jusqu'à présent avec 1 million, 1,5 million de dollars pour l'ICCN, nous sommes déjà à 360 millions de dollars. Donc, il y a une prise en compte universelle par rapport au mécanisme de changement climatique et donc de la préservation de la forêt. Mais ça ne peut pas se faire, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous dites aujourd'hui, on ferme les usines, très bien, les 50 000 Congolais, qu'en faites-vous? Leurs enfants, qui va payer les frais scolaires? Il y a tout un ensemble de données dont qu'il faut prendre en compte pour pouvoir améliorer progressivement.
En résumé, qu'est-ce que vous dites, monsieur le ministre?
En résumé, qu'est-ce que je dis? Je crois au processus qui est engagé aujourd'hui, au processus participatif. Je crois à l'apport de la communauté internationale. Il commence à se manifester. Je crois à la bonne volonté de tous. Je crois que nous avons besoin de partenariats comme Greenpeace, mais d'abord, l'État est là, l'État doit envisager tous les aspects possibles, doit tenir compte de ce que les ONG disent et font, de ce que les entreprises disent et font, des besoins de la population, et c'est l'État qui doit gérer. Il ne faut pas que ce soit des ONG qui gèrent, ou les entreprises qui gèrent, ou il faut quelque part une autorité de régulation, une autorité de décision. Merci. C'est mon rôle.
Judith Bégen, excusez-moi parce que le ministre, vous avez un peu coupé la parole. Si vous pouvez continuer, est-ce que ce n'est pas trop théorique ce que vous proposez là? Est-ce que ça a déjà été appliqué dans certains pays à travers le monde ou c'est, enfin, on comprend que votre but c'est la conservation de la nature, de la forêt. Ce n'est pas trop théorique ce que vous faites là alors que les pays africains ont besoin d'argent?
Non, pas du tout. Il y a toute une série des alternatives à l'exploitation industrielle de bois. Un bon exemple, c'est par exemple des communautés dans l'Amazonie qui ont commencé de cultiver des noix de cajou qui ont commencé toute une entreprise d'exportation de ces noix en préservant la forêt en même temps. Mais nous disons qu'il faut adopter une vision complète. Donc ça veut dire qu'il faut également voir la politique en matière d'agriculture et d'énergie pour réduire la pression sur la forêt. Par exemple, l'électrification rurale peuvent considérablement diminuer la collecte, la récolte de bois de chauffe et de cette façon sauver une grande partie des forêts.
Oui, je peux intervenir là, par exemple.
Oui, rapidement, monsieur le ministre.
Je peux vous dire que Greenpeace cite l'Amazonie. L'Amazonie est aujourd'hui, la forêt amazonienne est celle qui a le plus été détruite. Et qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Il y a des financements pour une forêt qui a été détruite, alors que la forêt de la République démocratique du Congo est celle qui a été préservée. Il n'y a pas de financement. Donc vous voyez l'inadéquation des discours et de la situation réelle.
Mais monsieur le ministre, comment que peut gagner le trésor public congolais en attribuant, en changeant les titres forestiers actuels en contrats de concession forestière? C'est un peu plus grand.
D'abord. Plus grand quoi. D'abord, on va réduire la superficie.
On leur donne beaucoup plus de droits. Lorsqu'une société n'avait qu'un titre d'exploitation forestière, maintenant le gouvernement lui accorde un contrat de concession forestière.
Non. On ne peut pas non plus instaurer l'instabilité juridique comme mode de fonctionnement d'un pays. Vous ne pouvez pas accepter, vous, d'avoir une maison et on change les titres tous les 10 ans. On s'en plaint déjà suffisamment. Donc, il faut créer une stabilité juridique dans ce pays. En termes d'image, en termes de visibilité, de traçabilité pour la République du Congo, c'est essentiel. Deuxièmement, comment voulez-vous que les écoles dont on parle, les hôpitaux dont on parle, les routes de desserte agricole dont on parle, puissent être faites, construites, s'il y a instabilité, si l'opérateur économique sait que dans un an, on peut lui retirer son titre? Aujourd'hui, les conditions de transparence sont là, les conditions de temps sont là, de durée sont là.
Complètement. En termes financiers, qu'est-ce que le Congo va gagner en attribuant des contrats de concession au lieu des titres? Combien, par exemple?
Beaucoup plus, je pourrais vous dire, qu'en termes de l'exploitation forestière, alors que nous allons réduire les superficies exploitées, à combien, je ne peux pas vous le dire, c'est le travail de la commission interministérielle. Je peux vous dire que moi, je me suis engagé dans le discours de politique sectorielle, que d'ailleurs je défendrai dans les prochains jours, à multiplier par 3 ou par 4 les retombées financières pour l'État.
C'est-à-dire
pour
la population, par exemple.
Écoutez, je ne peux pas vous dire un chiffre, puisque je dépends maintenant des décisions qui seront prises au niveau de la commission interministérielle. Si je vous disais aujourd'hui qu'on va passer à 20, 30, 40, 50 millions, je préjugerai du résultat de cette commission interministérielle qui est indépendante et dont la vie me lie.
Merci. Bonsoir, Jean de Dieu Gobani.
Bonsoir, Claude.
Les réactions des auditeurs avec vous, rapidement.
Oui, Tridongoy de Colouise au Katanga, lui, pense qu'il y a des contrats en contrat sans que le social des populations qui vivent de ces forêts change. Rien ne pourra bénéficier à la population sauf à ceux qui initient ces contrats. Et Mimbala, étudiant à l'université de Kinshasa, lui félicite pour sa part cette commission parce que, estime-t-il, le pays a besoin d'argent et pour ce faire, il faut des contrats valables pour que le pays puisse aller de l'avant. Enfin, Monsieur Eboubou Jefferson Guébi à Kisanga, en province orientale, lui pense que Greenpeace doit faire pression à la Siforco en complicité avec les gouvernants d'arrêter de détruire notre forêt riche en biodiversité d'une façon irréfléchie, car les conséquences écologiques sur notre environnement immédiat sont déjà prévisibles.
Je me tourne directement vers vous, Judith Verbeijen, vous êtes représentante en RDC de Greenpeace. Rapidement, s'il vous plaît, réagissez par rapport à la réaction de Boubou Jefferson Gueye, qui s'engage dans la province orientale, qui dit que Greenpeace doit faire pression à la Siforco en complicité avec les gouvernants d'arrêter de détruire notre forêt riche en biodiversité d'une façon irréfléchie, car les conséquences écologiques sur notre environnement immédiat sont déjà prévisibles.
Donc, nous disons que ça montre encore une fois qu'il y a l'état faible dans lequel se trouve le secteur forestier en RDC. Au moment actuel, les conditions ne sont pas en place pour éviter que l'exploitation forestière à l'échelle industrielle a des conséquences assez négatives environnementaux et sociaux. Donc, ça montre encore une fois la nécessité de maintenir un moratoire sur les nouvelles concessions forestières. Et de renforcer les capacités.
Le moratoire, c'est-à-dire l'interdiction d'accorder des nouveaux
emplois. De nouvelles, oui, c'est ça que nous voulons.
Oui, allez-y, terminez votre phrase.
Oui, donc, parce que on estime que les conditions ne sont pas en place actuellement, pour éviter que l'exploitation forestière détruit les forêts et...
Oui, monsieur le ministre, les conditions ne sont pas en place pour arrêter la destruction des forêts congolaises.
C'est le paradoxe. C'est là où il y a le paradoxe. Maintenir le moratoire, ça veut dire maintenir 156 titres accordés dans des conditions plus ou moins telles que nous l'avons évoquées. Aujourd'hui, il y a un effort. On va revenir à combien? Je ne peux pas vous le dire. Donc, il y a un effort pour améliorer, pour réduire les superficies exploitées, pour améliorer la gestion de la forêt congolaise, et pour voir que clairement les retombées aillent vers les populations concernées. Quand j'entends les intervenants, ils n'ont pas tort quand ils disent qu'ils ne voient pas.
On voit quand même les populations, on exploite les forêts, ils sont en guenilles, ils sont à peine habillés, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de route.
Absolument, ouais. Et c'est ce qui est dit très régulièrement et répété par moi, je dis on ne peut pas
continuer à préserver la forêt avec une population pauvre, qui n'a pas d'école, qui n'a pas d'hôpitaux, qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas d'eau potable. Donc, c'est tout cela qui doit être pris en compte. Il faut démarrer quelque part. On a démarré aujourd'hui par ce processus. Demain, il y aura le carbone. Je suis convaincu que la forêt est la première richesse de ce pays dans 5-6 ans. C'est ce qui va venir. Donc, en attendant aujourd'hui, il faut gérer la situation et il faut le gérer non pas avec des discours, mais des actes. Il y a un processus qui est engagé. Les populations sont là. J'ai visité il y a 3 jours la commission interministérielle. Il y avait les représentants du Bas-Congo. C'est eux qui se prononcent et qui donnent leur avis. Donc, rien n'est parfait. Tout s'améliore. Allons-y. Croyons-y.
Croyons-y. C'est avec ça qu'on va terminer cette émission. Jean-Claude Toumba Kamanga a réalisé cette émission. Héritier Sidiaka à la mise en œuvre. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais qui l'a préparé. Guy Roger Nyampala, Jean de Dieu Gobani et Guy Madé en leur nom. Je vous dis au revoir et à demain.